Alors, avant de parler plus en détail de Needlesharp, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours artistique jusqu'à Needlesharp?
Oui, j'ai démarré tôt, j'ai commencé par le piano. J'avais 8 ans, je suis rentrée au conservatoire à 8 ans et j'ai fait du piano pendant 5 ans. Et puis vers l'âge de 13-14 ans, je ne sais plus si c'est en 5e ou en 4e, on a un stage à faire pour découvrir le monde du travail. Et moi, j'ai voulu aller faire un stage chez un ingénieur du son. Donc, je suis allée dans un home studio pendant 15 jours. Et donc, on m'a fait passer derrière le micro pour que je vois comment ça se passait de l'autre côté de la vitre. Donc, c'était voilà un petit essai. Et la femme de l'ingénieur du son m'a dit, il y a quelque chose à faire avec ta voix. C'est dommage de faire que du piano. Tu devrais faire du chant. Tu es prof de chant. Donc, du coup, j'ai démarré les cours avec cette prof, avec Georgia. Et j'ai pris des cours avec Georgia pendant 2 ans, aussi 2-3 ans. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé le chant. Donc c'était du chant beaucoup plus classique. Et ensuite, j'ai fait des stages régulièrement à l'école supérieure du spectacle. Et là, j'ai rencontré mon premier prof qui faisait du chant rock, métal et voix saturée.
D'accord, parce
J'ai trouvé.
qu'avec Georgia, c'était du chant plus classique.
Oui, c'était voilà, c'était vraiment, c'était de la chanson. Française ou pas française, mais c'était de la chanson.
D'accord. Et
Et
donc ce passage vers une musique un peu plus dure, c'était ça suivait tes goûts personnels ou?
ah oui, enfin c'était voilà, enfin j'ai à l'ESS j'ai voulu faire quelques chansons qui étaient un peu voilà un peu plus rock machin etc. Et du coup je les faisais sans saturer parce que je savais pas faire. Et le prof qui était là-bas m'a dit, c'est un peu dommage quand même de pas les mettre de saturation sur ces titres-là. Et il m'a dit, moi, si tu veux, voilà, j'ai de bonnes notions sur comment il faut faire. Donc j'ai commencé l'apprentissage avec lui. Et j'ai eu mon premier groupe de reprise heavy metal. Donc je reprenais du Iron Maiden. J'avais 16-17 ans.
D'accord. Et donc justement, cette époque-là, dans l'influence là dans le monde rock metal, tes références en tant que chanteur ou chanteuse, c'était qui? Ou ça reste qui?
C'était alors années 90, j'aime beaucoup Gwen Waves, j'aime beaucoup Sandra de Gwen Waves au niveau de la voix. Après, pas mal d'hommes aussi, System of a Down, Soundgarden, Audioslave, Chris Cornell, d'à peu près dans tous les projets où il est passé. Après, plus tard, chez les femmes, il y a eu des personnes comme la chanteuse d'Hotep, Shamaya. Voilà, c'est assez large comme
Ouais, et
influence.
assez ambitieux parce que c'est tous des gens avec des fortes personnalités et puis qui ont su s'imposer justement dans leur dans avec leur groupe ou avec des comment dire des identités en tout cas du chant qui sont très marquées quoi.
Oui, j'aime bien effectivement les voix un peu fortes qui sortent du lot, quoi.
D'accord.
Et donc, et pour la petite anecdote, donc là, ma première prof de chant, Georgia, c'est la maman de ma batteuse actuellement. Donc je la
D'accord.
vois toujours.
D'accord, bah, comme quoi la boucle est bouclée.
Voilà.
Ok, super. Et donc, comment est né Needlesharp?
Alors, Needlesharp, c'est né de moi et Romain. On s'est rencontrés. C'est une fête de la musique. Je pense en 2000, 2008, 2007 ou 2008. C'était les retrouvailles de ma meilleure amie avec son premier petit copain de collège.
D'accord.
Et son premier petit copain de collège, c'est Romain. Donc voilà, ils se sont retrouvés via copain d'avant. Et j'étais là. Et donc, on est allé voir Romain en concert. Il avait un projet à l'époque qui s'appelait Contradiction. Donc, grosse référence à Massisteria. Donc, je l'ai rejoint sur ce projet-là pendant 2-3 ans. Et puis, finalement, c'est un projet voilà, qui nous parlait pas tant que ça à tous les deux. On avait envie de faire un autre style. On a monté Needlesharp. Du coup, elle a toute fin 2011, début 2012.
D'accord. Et donc, si pour quelqu'un qui aurait jamais entendu parler ou même écouté Needle Sharp, donc un, c'est pas bien, qu'on fasse YouTube à minima pour écouter ce que ça donne. Et deux, comment tu décrirais le groupe par peut-être par les les groupes ou les influences qui mettent tout le monde d'accord au sein de Needle Sharp?
Alors, ceux qui mettent vraiment tout le monde d'accord, il va y avoir Faith No More, Deftones. C'est vraiment les Pearl Jam aussi, on est à peu près tous d'accord. Et sur des choses plus récentes, plus électro, il va y avoir Bring Me the Horizon d'Enter Shikari.
D'accord, ok. Le parcours discographique du groupe. Donc en 2014, vous sortez un premier EP éponyme. Qu'est-ce que tu retiens de cette période, ces premiers débuts discographiques?
Déjà, enfin, l'enregistrement, c'était assez, c'était marrant, hein. On a enregistré ça dans le cagibi du Rakam.
D'accord.
Voilà, donc on était pas en studio, on avait du bon matos parce que la salle, la SMAC, le Rakam, ils ont du bon matériel. Mais voilà, le côté ne pas être sur la scène, mais être dans le cagibi, bon, ça a son originalité. On a travaillé avec Eric, qui bosse toujours au Rakam là-dessus. C'était voilà, enfin c'était vraiment les débuts. On avait un côté plus heavy à l'époque. Noan, elle venait juste d'arriver à la batterie et on avait un batteur avant qui était certes un bon batteur, mais qui était quand même beaucoup plus influencé sur justement des choses type Iron Maiden. Donc c'était carré, mais on va dire moins groovy, moins moderne.
D'accord.
L'arrivée de Noan dans le groupe, ça nous a quand même fait aussi changer d'orientation parce que du coup il y avait plus de possibilités parce que plus d'écoutes différentes parce que voilà enfin la volonté de faire des choses différemment.
D'accord. Et donc cette première entre guillemets carte de visite, ça a pu vous générer un enfin des concerts, des enfin ça a pu un
On
peu accélérer le groupe ou?
a pas mal joué hein, avec enfin on a joué au Divan du Monde, devant un divan du monde plein avec cet album-là. On a fait la première partie de Trepon Impale sur un festival, on a fait la première partie d'Inaïche, on a fait quand même pas mal de dates et des choses assez sympas. On est parti en Belgique, voilà, on a fait quelques dates plutôt sympathiques avec ce premier EP.
D'accord. Juste pour revenir, donc tu disais, hein, on fait une première partie, donc on joue devant un divan du monde plein. Quelques minutes avant de monter sur scène, on est dans quel état?
On n'est pas bien. Alors, c'était pas une première partie là, hein.
Enfin, où
C'était
c'était
un festival
un festival?
multigroupe, sauf qu'on était les moins expérimentés entre guillemets, et donc on a joué entre Hell Override et Furikane et on se sentait un peu petit. Déjà parce qu'il y a plein de monde dans la salle, mais aussi parce que le groupe qui vient de jouer avant nous, il joue super bien et qu'on sait que le groupe après, ils sont très bons aussi. Et nous voilà, on vient de sortir notre petite EP. Enfin, on est petit encore en fait. Donc on ne sait pas si on va être bien reçu d'un point de vue public parce qu'on est conscient qu'on n'a pas forcément atteint le niveau des groupes avec qui on est en train de jouer.
Il y a toujours, enfin, beaucoup d'artistes avec qui on discute, hein, ont toujours un peu ce sentiment de ce qu'ils appellent la syndrome de l'imposteur, de dire on va se faire jeter parce que on va peut-être se voir que par rapport aux autres, on n'est pas au niveau, quoi.
Ouais, ah non, mais là c'était vraiment, enfin en tout cas pour moi, mais je pense que pour mes comparses aussi, c'était, bon, on est content d'être là, mais on se demande si on a mérité quand même.
D'accord. Et le sentiment a posteriori?
Bah alors on s'est toujours demandé si on avait mérité quand même, parce qu'on s'est trouvé moins bon que les autres, mais par contre on a été super bien reçus. C'est-à-dire que, enfin, les gens ont vraiment aimé la prestation, donc bon, bah, on était contents quand même.
Et les décharges d'adrénaline générées donnent envie d'y revenir, enfin de.
Complètement, ouais. On est, bah, d'ailleurs, enfin, si on avait pu, on aurait refait le divan qui malheureusement aujourd'hui fait plus de concerts, mais c'est vraiment une salle qu'on a adorée.
Parce qu'entre guillemets, c'est le. Même si vous avez pu faire des concerts avant ou pas, les premières montées sur scène et à partir du moment où il y a un public, c'est un peu le test ultime pour savoir si entre guillemets on aime ça et on kiffe ça et on est fait pour ça, ou si il y a un blocage, enfin si on ou si on va être plus mal à l'aise que prendre son pied,
Et
quoi.
non, concrètement, oui, on est un groupe de live et on adore le live.
D'accord, bah c'est l'essentiel parce qu'effectivement c'est la finalité d'un groupe comme le vôtre. Donc ok, donc premier EP, puis après il y a donc un, en tout cas discographiquement parlant, il y a une grande période de silence, enfin grande, ouais. 5-6 ans, et puis donc là vous revenez avec un second EP.
Ouais.
Pourquoi 5-6 ans entre les deux?
Bah, donc en
si
2016,
ce n'est la vie, le quotidien.
C'est ça, en 2016 déjà il y a le guitariste rythmique qui part, et on met bien quand même 6 mois à se dire est-ce qu'on en cherche un autre ou est-ce qu'on n'en cherche pas, donc déjà on a 6 mois de réflexion. Et puis on a 6 mois d'essai en fait, où on essaie de jouer à 4, on se dit non, qu'est-ce que ça donne. Puis au final ça donne pas si mal. Et on commence à se dire bon, est-ce qu'on réécrirait pas tout ce qu'on a fait à 4? Parce qu'il y a quand même besoin de faire des arrangements. En plus, on a quand même, enfin on a 2 sets. Donc il y a un set acoustique de plus d'une heure, un set amplifié d'une heure, donc c'est pas rien à réarranger. Faut réarranger les deux. Donc Du coup, on a typiquement Doane qui était co-caronne en acoustique qui se retrouve avec le caronne et la guitare sur les genoux pour quand même avoir 2 guitares en acoustique. Mmh. Donc voilà, et en amplifiant, on se dit tiens, il y a longtemps qu'on voulait mettre des samples parce que justement, on aime bien les trucs, genre Bring Me, peut-être pas trop le dernier album quand même, mais ceux d'avant, oui. Ou du Under Shikari, et c'est vrai que ça nous parle bien les samples, donc on fait des tests, ça nous plaît bien, et je pense qu'on met bien un an et demi quand même à tout réadapter, donc on arrive à faire quelques dates et à tester notre set à 4, on est bien reçu à 4, les gens nous disent que c'est super, les samples sont bien accueillis, donc on se dit super, on va enregistrer le prochain EP en 2018, et puis on va sortir en 2018, voilà, ça fera 4 ans, c'est bien quoi, donc on le fait. On enregistre en 2018. Mmh. Et en 2018, je suis tombée malade.
Ah.
Voilà, donc j'ai eu des soucis de santé. Enfin, il y a eu d'autres choses, mais c'est vrai que mes soucis de santé à moi étaient quand même bien, bien gênants. Et donc, pas possible de monter sur scène du tout de septembre-octobre 2018 jusqu'à janvier 2020.
D'accord, c'est effectivement ça bouleverse le calendrier.
Voilà, donc du coup moi je leur ai dit bah on va pas sortir un EP si on peut pas le défendre sur scène puisque je trouve que ça a pas de sens. Mmh. Donc on attend, et voilà, enfin donc je me fais soigner, je me fais opérer, ça suit son cours.
Ouais.
Et puis voilà, en début 2020 je leur dis bon bah ça y est, je vais mieux machin, donc on commence à préparer la promo pour se dire ok, ça sort au mois de mai. Et puis bah finalement coronavirus machin, on se dit ok, est-ce qu'on le sort au mois de mai, puis on a dit bon bah là je pense qu'on a assez attendu, tant pis.
Ouais, ça faisait partie des questions de savoir si vous aviez voulu potentiellement retarder.
Ouais, on a hésité, mais en fait on a déjà tellement attendu à cause de ma santé à moi qu'on s'est dit bon bah là de toute façon personne peut défendre ses albums sur scène, je serai pas la seule. Donc d'accord. Finalement on l'a sorti quand même.
Ah, donc vous vivez avec ces titres qui sont dans la boîte depuis non plus de 2 ans?
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Ce qui fait que là, justement, avec 2 ans de recul, toi, tu as une perception différente de ces titres
Bah alors sur ceux-là, non, ça va. C'est pour ça que vous voulez quand même les sortir maintenant, parce que, enfin, on a tendance à souvent réarranger nos titres, et donc typiquement ceux du premier EP n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils avaient l'air sur le premier EP. Mmh. Donc là, je me suis dit, si on attend trop longtemps, ils ont le temps de changer, et finalement, on les a bien choisis parce que c'est franchement 4 titres qui sont assez stables. Donc on les a pas remaniés, ça nous correspond toujours dans ce qu'on fait aussi maintenant. C'était fallait pas attendre 2 ans de plus pour les sortir.
Et est-ce que vous avez fait la réflexion de vous dire on rajoute 5 titres et on sort un album comme on a du temps, comme il y a rien qui bouge?
C'est oui et non. vu que c'était fixé et qu'on trouvait que cet EP là lui-même via les textes etc il racontait une... Enfin, c'est un opus, voilà, assez fixe au niveau des paroles, etc. On s'est dit bon, bah, on fera un album réellement avec que des titres qui nous ressemblent, parce que là, enfin, il aurait un seul, ça nous paraissait juste un album. Si on sort, on va enregistrer 10 titres. Mmh. Donc, quitte à sortir quelque chose, on va encore attendre un peu.
D'accord. D'après, dans ton ressenti, c'est quoi le rythme normal de sortie du groupe? C'est, il vous faut quoi, deux, trois ans ou?
Deux, trois ans, normalement, voilà, c'est bien. quand il n'y a pas un problème au milieu.
D'accord, quand il n'y a pas, d'accord, oui, quand le monde ne devient pas complètement dingue. Ok. Quel est le processus de création? Comment naît une chanson au sein de Needle Sharp?
C'est une jolie partie de ping-pong chez nous. Donc ça peut être assez lent, parce qu'en fait souvent c'est alors ça peut être n'importe lequel d'entre nous, ça a été souvent Romain, mais c'est pas le seul qui arrive avec un riff, mais un bout de riff, hein. Ça peut être un bout de refrain, un bout de couplet, donc c'est vraiment un début, quoi. Ça fait 15-20 secondes. Et donc il y a, voilà, oui, bassiste qui va commencer à broder dessus, puis une fois que j'ai on va dire un couplet ou un refrain qui ressemble à quelque chose, j'essaye déjà moi de poser des paroles, de voir ce qui me plaît, de voir ce qui m'inspire. Et en fonction de ce que j'ai écrit, on va rechanger et on va continuer à broder sur la suite. C'est un processus qui est très partagé. Mais c'est pas quelqu'un qui arrive avec
un titre finalisé.
Voilà, tout est fait, les paroles sont écrites, la mélodie est déjà là. Non, en fait, on a vraiment un processus de composition.
Mais vous arrivez à vous rassembler de façon hebdomadaire, ou c'est des échanges de fichiers, ou...
Alors, on arrivait à se voir deux fois par semaine, parce qu'on a monté notre studio il y a 4-5 ans. Mmh. Donc, on est assez confortable, en fait, pour aller au studio. Donc on arrivait à se voir deux fois par semaine. Là, maintenant, la batteuse, elle est à Lille. Le bassiste, il est à Lyon. Ah. Donc, on va être sous format d'échange de fichiers.
D'accord. Au niveau des paroles, c'est toi qui t'en charges ?
C'est moi qui écris la totalité.
D'accord. T'es du genre à avoir, je sais pas, sur ton téléphone des notes ouvertes avec plein d'idées de mots, de textes, de phrases, et puis une autre partie avec des lignes vocales, ou...
Dans le processus d'écriture, je fais comme beaucoup, hein, je compose, je chante en yaourt pour commencer. Mmh. Et souvent dans mon yaourt, en fait, si la chanson m'a inspiré, j'ai déjà effectivement des mots qui sortent. Donc les mots qui ressortent du yaourt, je vais les sortir pour les garder.
D'accord.
Après, en général, du coup, la mélodie, elle est déjà posée. Alors je peux en tester 2-3, mais c'est assez rare que je la change, en fait. C'est souvent la première mélodie qui vient, c'est ce qu'on dit souvent, la première idée est souvent la meilleure. Donc il y a pu y avoir quelques arrangements, mais la première ligne de chant que je trouve, en général, je la garde.
Et au niveau des thématiques, t'en discutes avec tes camarades ou non, ils te laissent la main là-dessus complètement?
J'ai la main, j'ai complètement la main. Après, ils connaissent quand même les thématiques. Une fois que les paroles sont écrites, ils les lisent. Et si vraiment il y a des choses qui leur plaisent pas, ils ont leur mot à dire. Mais à part des tournures de phrases, des fois qui étaient genre, je dirais plutôt comme ça, ou enfin sur les thématiques, j'ai jamais eu de retour. Comme quoi, je devais changer quelque chose.
D'accord. Au niveau des sessions d'enregistrement, donc de ces 5 titres de l'EP, la grande différence que je comprends, c'est que vous avez pu travailler tranquille chez vous, entre guillemets, plus dans le KGB de l'un ou de l'autre.
Alors, enfin, cet EP-là, le studio, c'est un studio de répète, et l'EP, il a été enregistré au studio 180, qui est un studio pro à Paris.
D'accord, et donc assez différent de la première expérience.
Ah, pour le coup, oui, parce que c'est pas du tout un KGB.
Ça devient une expérience agréable, ou c'est du stress, ou les deux, ou...
C'était chouette comme expérience. Après, en plus, enfin, moi, Arnaud, l'ingé son, on va pas dire qu'on se connaît bien, mais on se connaît quand même. On aime bien bosser avec, enfin voilà, moi, on aime bien bosser avec Arnaud, donc. Du coup, c'est une bonne expérience. Enfin, c'est un groupe, en même temps une bande de copains qui, on est quand même là aussi pour se faire plaisir, pour s'amuser. Voilà. Puis bon, enfin, il a été enregistré dans des conditions, enfin, sur une vieille SSL, live sur bande. Enfin, c'est pas, pour le coup, c'est même pas chacun dans son KGB. Là, tous les musiciens étaient ensemble dans la même pièce. Et c'est des enregistrements pas one shot, mais presque, parce que quand on enregistre sur bande analogique. Même si ça repasse sur l'ordinateur, y a pas, et on fait la coupure et on recolle et on corrige la fausse note, ça marche pas. donc non, c'était une bonne expérience.
Ne pas passer en numérique, c'était une volonté de votre part?
On aime bien, effectivement, on aime bien, et ce studio là et Arnaud, c'est un peu une spécificité du studio quand même. Il a une vieille SSL, il y a plus de studio qui dispose de ce matériel-là. Voilà, il a enregistré sur bande, c'est son kiff, il aime bien. D'accord. Donc
ça fait partie de votre élément de choix de du studio et de la personne, OK. Quel était votre niveau entre guillemets de préparation quand vous êtes rentré en studio? Parce qu'on se dit bon bah le temps coûte cher, donc on optimise au maximum, donc on touche à rien, ou vous vous êtes laissé des places de liberté, ou sur le moment en studio vous alliez adapter tel riff ou tel solo ou tel ou même toi au niveau des chants, tu te laissais certaines libertés, ou tout était calé à virgule près?
On était quand même bien calé. On a fait beaucoup d'enregistrements de notre côté. Dans notre studio répète quand même, donc on a fait pas mal d'essais en fait avant d'aller au studio. Après, il y a pu y avoir quelques petits arrangements vus avec Arnaud, parce que telle ligne de guitare, si on rajoutait une petite ligne de plus, ça peut être sympa. Voilà, mais il y a eu assez peu finalement. Mais sur le premier EP qu'on avait fait, il y avait eu énormément parce qu'effectivement on n'avait pas beaucoup travaillé avant. Là, on a pris le temps, en fait, de vraiment enregistrer chacun des titres plusieurs fois, de faire des arrangements, de réfléchir. Donc, quand on est arrivé au studio, on savait déjà ce qu'on voulait faire, quand même.
Ok, ok. Au niveau des visuels, en général, enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la réalisation de la pochette de l'EP?
Alors, sur la pochette, on a travaillé avec un artiste qui s'appelle Ted Sheol, donc qui est artiste peintre, mais qui fait aussi de la couture, donc qui réalise ses petites, enfin des poupées. Donc celles-ci, elles sont pas très, enfin celle-là est pas très grande, elles doivent faire 15-20 centimètres, mais il y a eu des poupées grandeur nature d'un mètre 80. L'araignée, c'est pareil, elle est réalisée à base d'autres poulets ou de je ne sais quoi, faudrait le lui demander. Mmh. C'est un artiste qu'on suit depuis longtemps et qui est un ami, donc on connaît bien son travail et on avait vraiment envie voilà d'intégrer parmi nos potes. On a plein de gens qui font de la peinture, d'autres qui font de la danse, et on a envie de cet échange là en fait, qui soit pas que musical mais d'un vrai échange avec des artistes de tous bords. Et Tate sur cet album là ça s'y prêtait bien. C'est un album qui parle beaucoup de manipulation, d'oppression. Donc ces petites poupées un peu chiffon, toutes malléables, avec leur côté un peu Tim Burton, un peu Tristoun, ça correspondait bien aux paroles, enfin ça voilà, à l'histoire de l'EP. Après voilà, enfin pour tout ce qui est enfin la réalisation entière de la pochette, on y a un peu tous participé sinon, mais vraiment ce visuel là qui est un visuel fort, parce qu'on voulait aussi ça pour cette EP là, c'est-à-dire que le premier EP il avait pas de nom, il était éponyme, la pochette c'était le logo, enfin on n'avait pas poussé très très loin.
C'était très minimaliste la première pochette. Ouais.
Donc là on s'est dit bon on va voilà on a envie d'une image forte et le travail de Tate c'est voilà, enfin effectivement on aime pas mais au moins il provoque des réactions
Mais vous lui avez filé la musique en lui laissant carte blanche, vous lui avez donné un pitch.
On a utilisé des poupées, il en a plein, donc on est allé chez lui en fait, on l'a regardé un peu nous travailler en musique, et ensuite on a choisi avec lui ce qui allait aller sur notre EP en fonction de la musique, et on a placé les poupées, l'araignée, et c'est Gus, mon bassiste, qui fait de la photo, qui a pris les photos.
D'accord. Toujours dans le domaine des visuels, donc vous avez sorti un clip vidéo pour Philit, qui est donc un
Où on voit Tate travailler.
Voilà, et qui est un mélange donc de d'image studio et puis du groupe en train de réaliser, enfin de faire la chanson. C'est un exercice qui est sympa à faire, qui est intéressant de votre point de vue, ou qui est plutôt une contrainte obligatoire?
Non, c'était marrant pour nous, c'était beaucoup moins marrant pour celui qui a monté les images. On a tourné ce clip nous-mêmes, donc c'est Gus et Noan qui filment presque tout le temps. Il y a des fois, il y a moi et Romain. Donc clairement, on n'est pas vidéaste, hein, on n'est pas pro et on s'est amusé à tourner ces images, ces images nous-mêmes. Après, on a été du coup effectivement filmé Tate chez lui en train de travailler sur cette musique-là. Et j'ai confié ça à un ami vidéaste qui s'appelle Jean-Christophe Dieu en lui disant voilà, voilà les images, voilà la musique et fais-moi quelque chose de bien. Et on lui a donné aussi pas mal d'images, de photos justement du travail de Tate pour incorporer des pseudo-images subliminales pendant le clip. Et il a beaucoup souffert parce que n'étant pas vidéaste professionnel, a priori, nous tremblons beaucoup. Donc les images apparemment ont été difficiles à monter. Donc non, c'était très chouette à faire. Après, on espère faire un autre clip et peut-être avoir des images plus pro que celle-ci. Mais c'était une bonne expérience. Enfin voilà, c'était sympa à faire entre nous.
D'accord. Juste un dernier mot sur le P. Comment ça s'est passé avec MEO Music?
Bon, ça a été assez simple avec Alex. Hein. En fait, avant de sortir le P, je l'ai envoyé à, je pense à 7 ou 8 labels différents. On a eu pas mal de réponses positives sur cette EP et j'ai choisi voilà de travailler avec Alex parce que les autres, enfin déjà je connaissais des groupes qui avaient déjà travaillé avec lui qui en étaient contents et je connais toujours voilà des groupes qui sont signés. Je me suis dit voilà c'est un mec qui bosse bien, le contact passe bien, il y a possibilité de faire d'autres échanges avec des groupes du label, donc on a choisi de partir avec MNO, mais ça s'est fait très simplement.
D'accord. Mais il était ta recherche de c'était déjà en 2018 quand tout était prêt ou t'as fait ça que quand t'étais à nouveau en santé et...
Non, quand j'étais à nouveau en santé et qu'on savait qu'on pouvait sortir le pays.
D'accord, ok. Donc il n'y a pas eu j'explique au label qu'on prend 2 ans de retard dans le calendrier.
Non, ouais, on n'a pas eu à faire ça.
D'accord. Deux dernières petites questions juste pour finaliser. Finalement, de votre point de vue en tant que groupe, comment on voit la scène rock heavy metal depuis l'Île-de-France, la scène nationale?
Bah la France, ça reste bon. C'est bien en même temps parce que c'est une niche, donc il y a un public qui est, je trouve, assez fidèle quand même sur cette scène-là. Après, en Île-de-France, je trouve que ça devient vraiment dur. Parce que on a toutes les salles dans lesquelles on pouvait jouer, typiquement à Paris, dans lesquelles on peut plus. Le Divan du Monde, ça a fermé. Le Bateau Phare, ça a fermé. Les Combustibles, où nous on a joué plusieurs fois, ça a fermé. Donc on se retrouve avec, pour un groupe de notre niveau, on n'a plus de lieu en fait. Et les SMAC, on va pas se le cacher, sont pas friands de groupes de rock. Enfin, moi je vois dans l'Essonne. Ils sont beaucoup plus axés rap et reggae, et quand on arrive avec du rock ou du rock metal, on n'est pas. Enfin, ils nous disent que c'est bien, mais c'est juste que c'est pas leur programmation. Donc, en Île-de-France.
Ouais. Il y a plus de salles à votre niveau. Soit c'est beaucoup trop grand, soit c'est à la limite le bar du coin. Il y a plus d'intermédiaire.
L'intermédiaire est en Île-de-France, parce qu'ailleurs ça va, mais en Île-de-France, c'est dur à trouver.
D'accord. Et donc, t'as l'air, tu disais l'Essonne, donc en banlieue, même problématique que dans Paris.
Bah en banlieue, il y a des SMAC, donc pour des groupes qui feraient pas du rock, ouais. Ça va. Mais franchement, à part le 78 où on va avoir l'usine à chapeau, etc., qui reçoit encore des groupes de rock, c'est ce que je disais, moi qui suis de l'Essonne, les SMAC dans l'Essonne qui passent des groupes de rock, il y a le Rakam et puis c'est tout, quoi.
D'accord, donc la leçon, faut se mettre au rap.
Ah bah de toute façon on le voit hein. Je sais pas si t'as vu les derniers chiffres qui sont sortis de quelle est la musique la plus écoutée sur les plateformes de streaming en France, mais on est à 70% sur du hip-hop hein.
Non, je crois que vaut mieux pas parce que ça me déconne sur toi, mais...
Donc là ouais non, c'est sorti, on est à 70% sur du hip-hop et on a 1,3% sur du rock metal, sur bon. Du rock et metal.
Mettez-vous à l'allemand, je sais pas.
Ouais, voilà.
et dernière question, surtout dans le contexte actuel, qu'est-ce qui est programmé pour vous et quelles sont vos attentes pour Needle Sharp dans les mois ou semaines qui viennent?
Déjà, on essaye, nous, comme je t'ai dit, de se réorganiser là un peu à distance. Bon, là, mm-hmm. C'est les vacances, on s'enquiquine un peu moins, mais au mois de septembre, ça va être vraiment ça. Parce que c'est encore une nouvelle étape pour nous, hein, c'est tout récent.
D'accord.
Il y en a deux qui déménagent. En toute honnêteté, juste avant de sortir l'album, on s'est dit, est-ce qu'on le sort, on le sort pas, parce que est-ce qu'on va réussir à travailler comme ça. Et puis on a quand même, voilà, un bon accueil. Donc on s'est dit, bon, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a pas de raison, on va y arriver aussi, mais c'est un exercice pour nous parce qu'on était, voilà, habitués à se voir 2 jours par semaine. Donc là, bon, le set, on le connaît bien, donc on n'a pas peur au niveau du set. C'est plus pour les compos, de voir comment on arrive à composer à distance. On a été rassurés par pas mal de groupes qui nous ont dit, bah, nous, quand on y est passé, finalement, on composait plus vite. Alors, bon, on se dit qu'il y a, voilà, il n'y a pas de raison.
À tout malheur est bon.
Voilà. Donc, on se dit, voilà, maintenant qu'il y en a une à Lille et un à Lyon, on était un peu tous dans la région parisienne, et si jamais tu postules dans une salle à Lyon, on te dit, bah non, t'es pas du coin, là c'est bon, il y en a un qui est dans le coin. Donc, on essaye de voir les côtés positifs du truc.
Les Hauts-de-France, Île-de-France et Rhône-Alpes, je
sais pas. Ouais.
Auvergne-Rhône-Alpes, ouais. Ça fait un beau morceau de France quand même.
Voilà, normalement du coup ça nous laisse plus de place pour jouer, donc ça c'est le côté cool, mais bon voilà, il faut qu'on se réorganise, il faut que le bassiste remonte le studio, parce que là il vient juste de déménager, donc il a débranché tout son matos, faut qu'il rebranche tout. Déjà voilà, la rentrée, nous c'est apprendre à travailler de cette manière-là. On nous a proposé des concerts déjà, mais en conditions sanitaires. On a à peu près tous le même avis, c'est on a tous dit non. Il y a tous les groupes qui se précipitent pour retourner jouer. J'ai pas mal de potes que je connais, c'est jouer à tout prix. Moi, me déplacer à Toulouse dans une salle de 600 personnes, dans laquelle il y a 50 personnes qui sont sur une croix, chacun à 2 mètres les uns des autres.
C'est sûr que ça fait bizarre. Hein.
Ça me fait bader. J'ai pas envie.
Bah déjà, l'équilibre économique, il est peut-être encore plus dur que d'habitude. Et puis,
clairement.
Et puis après, c'est une musique où c'est difficile de garantir 2 mètres entre chaque personne, à moins de les mettre dans des espèces de bulles chacun. Enfin, c'est lunaire, quoi.
Donc, j'ai pour le moment les dates qu'on nous a proposées, je les ai refusées.
D'accord. Faut peut-être attendre que ça se tasse, quoi, comme tout le monde.
Ouais, non, mais parce que voilà, si à un moment donné je vois qu'en 2020 ça passe pas et qu'on n'a pas le choix, je me résignerai, mais là pour le moment je suis pas résignée, quoi. Je me dis non, on va attendre 2021, ça va bien passer ce truc là. On va nous autoriser des concerts dans des conditions plus classiques et je me dis voilà, on a essayé d'enregistrer un bel EP, on est content de ce qu'on a fait, même si ça a 2 ans, on est toujours content du travail qu'on a fait. Voilà, j'ai envie de le défendre, pas forcément devant une salle pleine, parce que finalement le fait qu'il y ait 20 personnes dans une salle de 600 personnes, je m'en fous. Mais par contre, j'ai envie de le faire devant des gens qui peuvent s'amuser et pas qui sont bloqués sur une croix et qui n'ont pas le droit d'aller toucher le voisin.
C'est clair. Ça annonce des semaines assez rigolotes dans les temps qui viennent. Bah écoute, un grand merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Tous nos voeux pour la suite, pour la réorg et puis les concerts qui, espérons, prendront un peu une forme plus normale dans les temps qui viennent. Et puis, on suit le groupe à travers le site internet et les réseaux sociaux.
Ben merci beaucoup.
À bientôt, bonne soirée.
À bientôt, bonne soirée.
Au revoir. Ciao.